merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour ce colloque dont je rappelle encore une fois la diversité et la richesse comme tout le monde. Ma communication, c'est bon? Ma communication va reprendre des sujets qui nous ont travaillés depuis hier, notamment le temps de la recherche et le temps de l'industrie qu'Ariane avait évoqué, ou alors les questions d'inachèvement que Ginny avait évoqué, ou encore les temps longs et les mouvements qu'on retrouve dans nos interrogations depuis hier. Peut-être que je serai un petit peu à contre-temps des propositions, mais je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur et ce que je propose n'est que le reflet de ma propre pratique et de ma propre réflexion. En effet, je vais vous parler aujourd'hui des cadences de la production vidéoludique, de l'industrie et de la recherche universitaire en me demandant si elles peuvent finalement coïncider. Alors, cette réflexion correspond à mon parcours puisque depuis 2018, je travaille comme scénariste dans l'industrie du jeu vidéo ou comme narrative designer et ma première expérience a été dans le studio BIMO sur le jeu Moonlight Lovers. Et cette expérience a permis à la fin de ma thèse de découvrir la recherche-création et depuis la fin de thèse, qui est un début aussi, j'ai exploré cette pratique de la recherche-création comme conceptrice indépendante et au sein d'un studio. C'est plus particulièrement le travail qui m'occupe depuis un petit peu plus d'un an maintenant au sein de The Seed Crew qui va faire l'objet de cette présentation. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un studio qui est né en 2019 dans la région toulousaine et ce qu'on fait, c'est des jeux qui sont destinés à la formation d'entreprise et le premier sur lequel on travaille parle des sujets liés à la diversité, la mixité et l'inclusion. Le premier module est par exemple sur le sexisme. Et pour vous donner quelques images de jeu, on joue Charlie qui vient dans l'entreprise et qui, en plusieurs épisodes, comme une série télé, va avoir des relations avec ses collègues. On va pouvoir se balader dans les couloirs, discuter avec ses collègues et c'est un récit à embranchement. Et puis, dans chaque épisode, il y a une phase de combat, pour l'instant, qui est une phase de combat mental. Mais c'est moins, moins l'objet en lui-même que le processus qui m'intéresse aujourd'hui. Pour vous donner un état de où on en est, on a sorti le jeu en juin et les premiers épisodes sont jouables. Et maintenant, dans le studio, on travaille à l'amélioration du jeu de la première version et au travail du deuxième module qui, lui, porte sur le validisme. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un récit pratique au sens que donne Louis-Claude Paquin à l'expression. Et je vais plus particulièrement m'intéresser sur la documentation qui va porter sur la mesure du temps et sur le traitement des événements marquants. Alors, Annette nous l'a rappelé hier, il y a beaucoup de conceptions philosophiques du temps et c'est une notion très riche. Pour ma part, je vais m'appuyer sur le travail de Claude Dubard qui distingue notamment les temps physiques qui sont mesurables par l'horloge, le calendrier, etc., les temps vécus de l'ordre physique et psychique et les temps sociaux. Et donc, je m'appuie sur un travail à partir des documentations, notamment les photos, l'agenda personnel, les différentes versions de ma liste de choses à faire qui bougent tout le temps. Et puis, l'agenda, en fait, l'ordre de mission que j'ai au studio, pour pouvoir, à partir de ces manifestations de temps physique, retracer le temps vécu. Alors, ma première interrogation porte sur la dissonance ou l'harmonie entre la recherche universitaire et la création industrielle. On pourrait imaginer que le temps de la recherche universitaire est un temps long Et en fait, cette idée, elle vient peut-être d'une conception de la recherche qu'on avait notamment au siècle précédent et que soulignent ici Paul Bouffartig et Caroline Lanciano-Moranda, c'est-à-dire qu'on avait un modèle où, les temporalités étaient longues et commandées et contrôlées par les pairs. Au contraire, on pourrait avoir aussi cette idée de la recherche si on regarde à distance les productions. Par exemple, on travaille sur l'appel à projet du GIS, entre le moment où je réponds à l'appel à projet en décembre 2019 et le mois prochain où je présente les premiers résultats de la recherche-création, on peut penser que c'est un temps long. Seulement, en fait, ce temps long, il n'est percevable que de l'extérieur et si on est de l'intérieur, si on regroupe tous les événements de la recherche, en fait, on voit que le temps de la recherche est perçu différemment. Là, sur le calendrier, j'ai mis en bordeaux les moments de colloques de l'année dernière dans lesquels j'ai participé et en orange les dates de rendu d'articles. Et on se rend bien compte, le temps physique représente le temps vécu, où en fait le temps de la recherche est morcelé, saccadé. C'est une particularité du temps qu'on pourrait associer plus pragmatiquement aux impératifs de la production vidéoludique, notamment en se disant que dans la méthode de projet, on assigne des tâches qui ont des priorités à des personnes. Là, par exemple, c'est le logiciel Trello. Sauf qu'en fait, quand on le matérialise sur le calendrier, on voit que pour moi, la création est plutôt vécue comme un temps long. J'ai marqué là en bleu mes passages au studio à Toulouse parce que je travaille à distance et ces passages au studio viennent marquer des fins de moment de création. La fin de l'écriture du premier module, la fin de l'intégration dans le moteur et de la relecture des différents épisodes, la fin de l'écriture de deux petits projets qui sont liés et le début de la phase de test et enfin la conception du module 2 sur le Validis. Donc, en fait, on se rend compte que le temps de la création et le temps de la recherche, en fait, s'ils ont des rythmes différents, fonctionnent un petit peu de la même manière avec des impératifs de productivité et puis, comme ça, des temporalités qui s'enchevêtrent. Alors, donc, du coup, ça donne l'idée que ma pratique de recherche-création est née à l'enchevêtrement de ces temporalités, et c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Si on regarde, là, j'ai mis en jaune les périodes de recherche de manière un petit peu générale, et en bleu, les périodes de création. On voit bien comment les deadlines, si je reprends le terme de l'industrie, vont permettre comme ça l'oscillation entre les différentes pratiques. Et c'est d'ailleurs ce que Louis-Claude Paquin et Cynthia Nourry repèrent comme caractéristique de la recherche-création, notamment dans leur cartographie, c'est-à-dire l'idée d'une hybridité qui correspond avec l'oscillation des pratiques. Donc, du coup, le fait d'avoir des deadlines, comme ça, des impératifs, va permettre de multiplier les moments d'entrecroisement, de favoriser cette dynamique de passage de l'un à l'autre. C'est précisément le terme que Louis-Claude Paquin emploie et le terme de chiasme, en fait. D'accord, j'ai un petit message sur l'écran, je vais juste fermer. En me disant qu'il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas l'écran, mais voilà. Ces des moments de porosité, on utilisait le terme hier, dans lequel la création et la recherche, en fait, c'est multiplier ces moments de jonction. Je voulais vous prendre un exemple très concret. En mai dernier, j'ai participé à une paper jam qui est un moment qui a été créé dans le calendrier de la recherche universitaire comme un moment de recherche où on publie une recherche universitaire, mais qui correspondait à des temps d'industrie puisque c'était lié au Stunfest qui est un festival vidéoludique, et puisque ça prenait la forme de quelques jours, donc sous le modèle de la Game Jam, où on crée un jeu en quelques jours et qui est donc un temps d'industrie. En fait, dans ce travail, dans ce moment, j'ai travaillé sur les bugs narratifs, qui n'est pas mon travail au quotidien, mais qui a permis de relancer cette dynamique de recherche et de création, de réouvrir d'autres possibilités dans des moments qui étaient pleins, en fait, en termes de création au studio et en termes de recherche dans les impératifs de l'université. Dans l'imbrication, en fait, des rythmes rapides de l'université et de l'industrie, les impératifs du calendrier de production sont des moments qui vont favoriser le passage à l'action. En fait, Louis-Claude Flaquin explique qu'après un premier temps de réflexion et de construction de la problématique, il faut accéder à un dessaisissement de soi-même. Et en fait, il explique que ce n'est pas évident, et je pense que je suis assez d'accord avec lui. Et les deadlines sont un stimulus, une injonction forte, une incitation pour avoir produit quelque chose. Et dans mon cas, c'est d'autant plus vrai quand on travaille en tant qu'indépendante ou que freelance sur d'autres projets qui sont à côté de mon activité salariée, puisque très concrètement, la rémunération est liée à des deadlines de production. De la même manière que les deadlines dans l'industrie encouragent le passage à la création, les impératifs de la recherche universitaire permettent d'arrêter la phase d'action. Parce qu'en fait, elle pourrait se continuer, se poursuivre éternellement de projet en projet. Les événements de la recherche universitaire aménagent le temps de la réflexivité qui est séparé du temps de la création. Dans la présentation de la recherche-création, Edwige Lelièvre explique ainsi qu'il est nécessaire de prendre le temps de se détacher de son œuvre avant de revenir sur son travail. Et en fait, la préparation des colloques et des articles, qui se fait des mois après l'appel à communication ou à contribution, permet de créer cet espacement entre l'idée à chaud et la réflexion à froid. Par exemple, sur ce calendrier, j'ai explicité à quoi correspondaient les différents moments de création et de recherche. On voit par exemple qu'en octobre, après l'écriture du module 1, il y a un temps de réflexion sur la démarche et qui correspond à la reprise d'interrogation qui était début avril, au tout début du projet. Les impératifs de la recherche et de la production viennent donner une cadence en fait à la pratique, puisque l'activité artistique et la recherche-création comportent une part importante de hasard. Mais il faut aussi laisser la possibilité au cadre temporel d'être repensé en fonction des opportunités. Et c'est ce que je fais à plusieurs moments. En fait, en analysant la documentation du temps physique, on peut se rendre compte du temps vécu. Donc, il faut pouvoir reconfigurer en fonction des opportunités. Et c'est ce qui est arrivé dans ma recherche dans le cadre d'un partenariat avec Pulp Studio, où en fait, le projet est né de façon inattendue et est venu se glisser dans les interstices de temps qu'il restait. Ce qui veut dire notamment que mon temps de recherche-création est tout le temps un temps de réaménagement, de réorganisation des événements dans le calendrier. Donc, il est possible qu'on puisse conclure que l'enchevêtrement du temps de l'université et du temps de l'industrie soit un cadre plutôt favorable pour l'émergence d'une pratique de recherche-création. On pourrait alors se réjouir, sans réserve, que les similarités entre les deadlines de production et les impératifs de la recherche permettent un cadre temporel qui favorise la recherche-création. Cependant, si cette organisation fonctionne, on peut se demander à quel prix. Et donc, j'ai des soupçons par rapport à cet arrangement et je voudrais vous les décrire en deux points. Déjà, il est possible que ce modèle de la recherche-création soit fondamentalement personnel et lié à ma conception du temps. Je ne poserai pas d'autres mots dessus. Pour le dire brièvement et simplement sur la façon dont c'est vécu, j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses différentes dans la journée liées au travail de l'esprit. Quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse, mais j'ai du mal à savoir combien de temps va me prendre en tâche. J'ai du mal à gérer les imprévus. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire et je fonctionne avec une liste de choses à faire qui va mêler la vie personnelle et la vie professionnelle dans les moindres détails. Je ne sais pas travailler sans deadline, même artificielle, et en fait, je suis perpétuellement fixée au présent, même quand il s'agit de prévoir un futur que j'envisage. J'ai donc appris, au fur et à mesure, à exploiter mon sens altéré du temps pour faire au mieux de la recherche-création. J'ai acquis le système. Par exemple, je crée souvent un contre-temps du temps social dans les moments de vacances, la nuit et les week-ends. Le fonctionnement que je propose, en fait, est fondamentalement peut-être personnel. Et donc, si le premier soupçon porte sur le temps vécu, le deuxième soupçon porte sur le temps social que sous-entend le modèle que j'ai présenté ou le fonctionnement que j'ai présenté. En effet, le temps de la recherche par temps court, rapide, saccadé est souvent décrit comme la colonisation de cette pratique par des injonctions néolibérales qui viennent modifier profondément les recherches effectuées. Par exemple, Paul Bouffartigue et Caroline Anselmo-Mordana notent à quel point les formes d'organisation en projet sont à l'origine de tensions entre la logique gestionnaire actuelle et l'ancienne logique professionnelle des chercheurs. Les auteurs s'interrogent alors sur l'efficacité de ce fonctionnement au vu des objectifs de productivité et de compétitivité. Est-ce que vraiment le mode projet permet l'innovation, l'originalité, la diversité dans la recherche ? On constate en fait qu'un temps court qui contrarierait la production scientifique telle qu'elle est définie auparavant se retrouve aussi bien dans l'université que dans les entreprises. Cette réorganisation du temps de la recherche en fonction d'impératifs d'efficacité et de productivité est favorisée par la conception du temps des chercheurs. En effet, Maria Rio-Caral et Bernard Fuseli montrent qu'il existe un ethos professionnel que partageraient les chercheurs et qui les pousserait à avoir une grande disponibilité temporelle pour leur métier et dont profiteraient les institutions gourmandes, j'aime particulièrement le terme, de Lewis Kosser. Il est donc possible que mon enthousiasme d'avant pour les rythmes de la recherche, les calendriers à foison, trouve son origine dans le moule de cet ethos professionnel et dans mon habitude de la recherche en mode projet. La propagation de la temporalité néolibérale est aussi constatée par les artistes-chercheurs. C'est ce que remarquent notamment les auteurs et autrices de L'artiste et le singe savant qui déplorent ce que font les modèles technoscientifiques et les modèles du projet à la recherche en art. Dans Pensée en acte, Terry Manning et Brian Massoumont refusent en fait cette culture capitaliste et ils proposent des pistes pour faire cahier, comment fait tourner le lait, le temps de la recherche, le temps de la recherche à l'heure de l'économie néolibérale. Ce qui signifie notamment ne pas avoir d'impératif de productivité, or c'est ce que je proposais auparavant. On pourrait aussi citer Yves Citon sur le même sujet ou encore Nathalie Loveless qui propose tous les deux la désoccupation ou la défamiliarisation, notamment par des processus de lenteur, prendre son temps, perdre son temps pour pouvoir créer. Donc, en fait, ces conceptions de la recherche sont à l'opposé de ce que j'ai proposé. Pourtant, je vous en parle aujourd'hui parce que mon fonctionnement, le modèle, me paraît intéressant pour deux raisons. Déjà parce que c'est possible que ça montre une posture de chercheur-créateur en jeu vidéo qui soit en train d'émerger, où l'artiste n'est pas tout à fait comme un créateur de la scène indépendante, mais il a des contraintes en fait, financières. Il n'est pas tout à fait amateur, comme le définit Pierre-Yves Burel, mais il y a une question du goût et de l'incertitude. Il n'est pas tout à fait un artiste de laboratoire, mais il bénéficie du régime favorable du numérique. En fait. Donc, du coup, il y aurait peut-être quelque chose là. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais vous le présenter aujourd'hui, c'était parce que il me semble que si une réaction au système néolibéral et à sa temporalité et la lenteur, la prise de conscience de soi, des états, etc., comme ce dont on a fait l'expérience ce matin, je pense qu'une autre piste est celle de se laisser embarquer, entraîner dans le jeu du mouvement, en sachant qu'on peut toujours s'arrêter. Il s'agirait en fait de se laisser entraîner entre deux moments de pause par le mouvement. Alors, je me suis permis la référence à la danse parce que c'est la meilleure comparaison que j'ai trouvée. C'est le travail chorégraphique de Lisa Rindel dans la compagnie Two Sword Skype. Ou en fait, je vous le fais très rapidement, je ne suis pas danseuse, l'idée c'est de faire un mouvement au cœur de la chute, en fait. Et peut-être que je vous laisserai découvrir, et peut-être qu'il y a une autre forme de réponse à chercher maintenant. Avec le travail de l'Oulipo, et comme on l'a rappelé ce matin, les contraintes formelles peuvent être perçues comme une forme de liberté, et en fait, de la même, les contraintes temporelles peuvent être libératoires. Les deadlines sont alors des moments de conclusion, de soulagement. Il n'y a plus la pression de devoir reprendre la recherche ou la création, plus besoin de faire mieux. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais dans le temps qui m'était imparti, avant et après, pour vous présenter une réflexion que j'espère être intéressante. Merci.